Bien. Donc, mesdames, messieurs, pour je vais consacrer cette troisième séance à un sujet pour lequel j'avais songé au début, présenté lors de la première séance, c'est-à-dire le titre du tableau tel qu'il nous est familier au XIXe et XXe siècle. Je me suis beaucoup interrogé en me disant, faut-il partir de notre actuelle conception du titre pour ensuite remonter au fait que cette conception est anachronique, du moins pour ce qui concerne la peinture ancienne, ou s'il fallait, au contraire, la placer chronologiquement. Ce qui m'a un peu gêné en préparant cette séance, c'est que, autant pour les périodes anciennes dont je vous ai parlé les séances précédentes, la bibliographie n'est pas gigantesque, autant en ce qui concerne les titres au XIXe et XXe siècle, je ne suis pas absolument sûr d'arriver à apporter beaucoup de choses de neuf après les travaux de le livre de Welshman, après l'article de Gombrich de 1985 qui, d'une certaine façon, dit bien des choses que je comptais vous dire, et les travaux, notamment, de François Armingaud, de Stephen Bann, etc., etc. C'est-à-dire que le titre au XXe siècle a été l'objet de beaucoup plus d'études que les titres antérieurs. Mais en même temps, et c'est un caractère spécifique de l'histoire de l'art, c'est que nous sommes nécessairement amenés à une reconstruction rétrospective. Je ne suis pas le premier à le dire, c'est-à-dire que notre conception de l'art dépend de l'art contemporain et nous projetons sur l'art ancien ce que nous avons acquis autour de l'art des périodes plus récentes, des 19e et surtout du 20e siècle. Et donc, il était inimaginable de faire l'économie d'une séance sur ce qui constitue notre image, notre idée actuelle du titre. Et ainsi, il me fallait réfléchir sur les modifications que le titre apporte à la peinture, toujours cette fameuse notion de couleur invisible dont je vous parle depuis le début de ces cours, ce que le titre apporte à la peinture une fois que le titre existe réellement. La semaine dernière, je vous parlais non pas tellement de titres, mais de textes écrits associés au tableau qui avaient permis d'accroître le domaine de la représentation, dans le cadre très spécifique de la peinture d'histoire, de la peinture narrative. En revanche, au XIXe et au XXe siècle, cette question de titre va se poser en termes assez différents. Alors, je vous l'avais dit, le titre émerge essentiellement par le biais de la reproduction. Les premiers tableaux à avoir des titres, ou plutôt les premières images auxquelles on associe des titres, sont des gravures. Et donc, la gravure de reproduction conduit, dans bien des cas, à ce que l'on dispose d'un lien indissociable entre une image et l'œuvre à proprement parler. Mais cette image, et je suis navré de reprendre des exemples récents de l'exposition Jérôme. Nous n'avons pas pu voir le tableau de Chantilly à Orsay parce que Chantilly ne prête pas, donc il y en a une autre version. Mais le tableau de Chantilly a été exposé au Salon sous un autre titre que les innombrables reproductions que la maison Goupil a produit de ce tableau. Dans le livret du salon, dans la présentation donc officielle de l'œuvre, le tableau de Jérôme s'appelle « Sortie du bal masqué ». Pour le grand public, qui était prié d'acheter les photos, les gravures, les lithogravures, les chromogravures, etc., etc., il fallait être un peu plus clair et donc indiquer que « duel après le bal », donc sortir du caractère essentiellement allusif de la présentation du tableau au salon. Et donc, et j'y reviendrai la semaine prochaine, c'est une des difficultés qui se posent dans bien des cas, c'est-à-dire que le titre de l'image d'après une œuvre n'est pas forcément le titre de l'œuvre à proprement parler. Mais au-delà, donc, le titre étant devenu une évidence, il va, au XIXe siècle, prendre des formes assez différentes. Et je voudrais commencer par deux tableaux très célèbres, et tous les deux, et les deux titres ont été l'objet de pas mal de discussions. Titre, je ne sais pas si l'on peut vraiment employer le terme, le tableau que Courbet expose en 1855 dans la baraque qu'il s'est fait construire à côté de l'exposition universelle, avec le titre « L'atelier du peintre, allégorie réelle déterminant une phase de cette année de ma vie artistique et morale ». Ce titre a laissé, plutôt cette inscription, a laissé perplexe bon nombre de critiques, évidemment. Et ce titre, peut-on vraiment parler d'un titre ? Et c'est un autre problème. En effet, dans la lettre à Champfleury par lequel Courbet expose son projet, son programme, je vous en lis un extrait. C'est l'histoire morale et physique de mon atelier. Première partie, ce sont les gens qui me servent, me soutiennent dans mon idée, qui participent à mon action. Ce sont les gens qui vivent de la vie, qui vivent de la mort. C'est la société dans son haut, dans son bas, dans son milieu. En un mot, c'est ma manière de voir la société dans ses intérêts et ses passions. C'est le monde qui vient se faire peindre chez moi. « Vous voyez, précise-t-il à Champfleury, ce tableau est sans titre. Je vais tâcher de vous en donner une idée plus exacte en vous le décrivant sèchement. » Alors, la lettre est rédigée avant ou pendant l'exécution du tableau. Il décrit 31 figures et il y en aura 33. Je vous renvoie aux analyses d'Hélène Toussaint qui propose une lecture politique de l'œuvre, aux analyses de Ségolène Le Menn. Un tableau sur lequel la bibliographie est absolument pléthorique, et donc je ne vais pas essayer de vous donner le sens du tableau, mais c'est toute l'interrogation sur un titre qui n'est pas... Quand Courbet dit « ce tableau est sans titre », ça veut dire que ce tableau n'a pas de sujet à proprement parler. Ce ne sont pas les casseurs de pierre, ce n'est pas l'enterrement à Ornans, ce n'est pas la fileuse, ce n'est pas la rencontre. C'est une allégorie réelle qui pose donc le problème d'une définition même du titre. Le titre que propose, ou plutôt l'inscription que propose Courbet dans la plaquette qu'il vend pour les visiteurs ou qu'il distribue aux visiteurs de son exposition, associe à ce tableau une phrase qu'il ne considère pas comme un titre, mais davantage comme une définition, pour revenir toujours aux questions que j'avais abordées lors de la première séance, entre la distinction entre définition et description. Admettons, l'atelier du peintre peut être une description, allégorie réelle et déterminant une phase de cette année de ma vie artistique et morale serait davantage du ressort de la définition, toujours pour renvoyer à la logique de Port-Royal. Et donc, on se trouve face à une espèce d'incertitude. Or, cette notion d'allégorie réelle, ces titres explicitants, ben, on va les retrouver très, très largement au XIXe et au XXe siècle. C'est-à-dire que ce que Courbet considérait probablement comme n'étant pas un titre devient une nouvelle façon de titrer les tableaux. Alors, naturellement, le public ou les critiques expliquent qu'ils ne comprennent absolument pas ce que Courbet a voulu exprimer par ce titre qui n'est pas forcément très clair et dans le tableau à proprement parler. C'est-à-dire que ce n'est pas une représentation d'atelier. On est dans le ressort d'une allégorie réelle, puisque réalisme il y a, comme l'écrit Courbet dans cette lettre qui donnera le titre d'un essai de Baudelaire, il y a indiscutablement, il faut associer réel et allégorie, ce qui n'est pas sans quelques complications. Autre titre particulièrement célèbre et qui a devenu, avant d'y passer, ces titres, je vous ai parlé il y a 15 jours de Whistler et des débats qu'il avait avec la presse anglaise et avec ses amis en donnant comme titre à ses tableaux non pas « The White Girl » ou « The Little White Girl », mais « Symphonie en blanc numéro 1 »,« Symphonie en blanc numéro 2 ». Je vous ai montré il y a deux semaines l'harmonie d'or et de brun qu'il avait exposée. C'est-à-dire que là aussi, pour le public, ce n'est pas vraiment un titre parce que cela renvoie à une intention, à un projet, à la personnalité du peintre, et son projet est plus l'harmonie des blancs et une harmonie de type musical. Vous souvenez le texte qu'on avait vu il y a deux semaines. Je vous rappelle que tous les textes que je vous ai présentés sont disponibles sur ma page internet de l'Université de Lausanne. Pour Whistler, la peinture du ressort de la musique. Et donc, il s'agit essentiellement, dans le titre, de le donner à comprendre au spectateur plutôt que de chercher une anecdote et d'indiquer précisément de qui est le portrait représenté. Et j'en viens donc à un tableau dont le titre est peut-être plus célèbre encore que le tableau, qui a eu des résonances, qui a conduit à baptiser un mouvement. Le mot impressionniste, comme vous le savez, vient de commentaires ironiques sur le titre de l'impression Soleil levant exposé par Monet au salon des impressionnistes, à l'exposition de 1873. Et le fait qu'il introduise sa propre personnalité, c'est-à-dire son regard comme titre du tableau, et bon, je ne vais pas revenir sur les titres de Monet, vous avez tous eu l'occasion d'en voir suffisamment ces derniers temps, c'est-à-dire des titres qui sont essentiellement liés à un regard qui construisent un discours, qui construisent une approche, et qui finalement, eux aussi, s'écartent complètement de l'anecdote. Alors, d'un côté, les titres Whistler, face au titre de Whistler et au titre de Monet, on voit naturellement émerger au XIXe siècle d'autres types de titres, plus littéraires évidemment, et qui, eux, renvoient davantage à une conception, autre type de conception de la peinture, qui n'est pas à rendre compte d'une impression ou d'un élément de vie, mais de l'imagination du peintre, de ses rêves. Alors, comme je vous l'ai dit la dernière fois, le problème des titres, c'est que leur traduction, souvent, leur fait perdre énormément. Donc, vous me pardonnerez de vous mettre un ensemble de titres en anglais ou en allemand plutôt que de les traduire, parce que leur mode de fonctionnement même est transformé. Alors, le réveil du printemps, pourrait-on traduire pour ce tableau de Böcklin, c'est-à-dire que la peinture de type symboliste vise à toucher l'inconscient, à évoquer chez le spectateur un certain nombre de sentiments, et ces sentiments passent, et on y reviendra tout à l'heure avec des peintres du XXe siècle, passent par une image relativement mystérieuse qui peut perdre son mystère essentiellement par le biais du titre qui lui est associé. Et Böcklin, que ce soit avec l'éveil du printemps ou à travers Je vous montre une des trois versions ou des quatre versions de l'île des morts, dit Toten Insel. Je vous montre la version de Berlin. Pose aussi un nœud. Disons, je ne sais pas si la célébrité absolument gigantesque qui a pu être celle de ce tableau dans l'Europe entière, ces reproductions à n'en plus finir sur tous les murs allemands et même quelques murs hors du monde germanique, auraient été aussi efficaces sans le titre. La reproduction elle-même assure ou maintient cette notion de le titre d'Île des Morts, de Toten Insel, c'est-à-dire de ce qui vient donner de nouveau cette couleur au tableau, c'est-à-dire qui conduit à lire, à regarder différemment l'ensemble de la composition, à ne pas considérer que les cyprès sont des arbres choisis au hasard, à voir différemment la forme blanche du premier plan. Justement, Whistler dirait « j'ai eu besoin d'une forme blanche au premier plan ». Böcklin dira nous entrons dans le royaume des morts. Les rivages escarpés, la construction même du tableau prend un sens totalement différent par le biais du titre qui vise à expliciter l'œuvre et donc en faire une espèce d'icône de la peinture allemande du XIXe siècle, à peu près jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Et donc c'est autant de questions complexes qui viennent s'ajouter. On n'est pas du tout dans le renvoi au peintre lui-même, c'est-à-dire à l'impression soleil levant, ou à l'allégorie réelle déterminant 10 ans de ma vie morale et artistique et morale, mais dans la construction d'une image, et construction d'une image qui passe elle aussi par un titre. Alors on n'est pas très éloigné justement d'un exemple que je vous avais donné la dernière fois, c'est-à-dire le cauchemar de Füssli, qui lui aussi passe par un titre. Ici, on est davantage dans le domaine de la reproduction. C'est aussi cette teinte supplémentaire qu'un Odilon Redon donne à la plupart de ses tableaux, de ses pastels. Alors là, je vous renvoie aux travaux de Dario Gamboni sur Redon et la littérature. Je ne vais pas m'y attarder. C'est la façon dont il a su, je dirais, manipuler Huysmans pour arriver à atteindre ce qu'il lui fallait comme succès avant de dire que la littérature, c'est peut-être pas aussi important que ça. Mais dans le ressort de la peinture symboliste, effectivement, le titre vient lui aussi mettre une teinte différente. Nuage en fleurs, je ne sais pas si vous auriez immédiatement proposé ce titre pour le tableau d'en haut, moi pas en tout cas. Et en même temps, lui serait davantage du ressort des symphonies en blanc que proposait Whistler, c'est-à-dire d'insister davantage, non pas sur l'anecdote, sur le voilier du premier plan, mais sur cette parenté du ciel et d'un monde visible polychrome. Réflexion, devant inventer un titre au tableau, et je reviendrai tout à l'heure sur le problème d'invention des titres, j'aurais probablement proposé Mélancolie, qui aurait marché tout aussi bien, mais ce n'est pas le titre qu'a choisi Redon, c'est-à-dire que là, on a un mode de fonctionnement où le titre prend une place déterminante. Autre exemple que j'avais déjà évoqué, et qui lui aussi va avoir pas mal de résonance au XXe siècle, c'est dans les tableaux tardifs de Gauguin, ces tableaux de la période tahitienne, l'inscription dans le tableau même, et non plus sur le cadre, d'un certain nombre de mots en tahitien. Le Vaine Notemiti pour le tableau que vous avez à votre gauche, inscription donc qui vient répondre. Peut-être sur le mauvais bouton. Enfin, de toute façon, vous pouvez le voir convenablement, et qui vient répondre au titre. En revanche, l'autre tableau que l'on appelle Upa-Upa ou Upa-Upa, la danse du feu, n'a pas d'inscription. Et c'est assez parlant. C'est-à-dire que c'est un tableau dont apparemment Gauguin n'était pas satisfait et qu'il n'a pas envoyé en Europe pour être exposé. Il fait partie des tableaux peint au début des années 90. Il en envoie un certain nombre à vendre dans une exposition européenne. Celui-ci n'apparaît pas sur la liste, n'est pas envoyé, et donc n'est pas titré. Il reste du ressort du fond d'atelier, c'est-à-dire du tableau non satisfaisant aux yeux du peintre, pour des raisons post-Kandinskienne, on comprend assez bien que ce tableau aujourd'hui n'est pas forcément puisse séduire, mais le titre lui-même n'est pas inscrit, c'est-à-dire ne correspond pas à un lien, à une médiation entre le peintre et son public ou son acheteur potentiel. Et donc, si je vous oppose ces deux tableaux, c'est bien pour montrer à quel point l'importance ici du titre, je vous l'ai dit, ces termes tahitiens sont pour Gauguin un moyen de renvoyer son œuvre à une tradition primitive, naïve au sens réel du terme, c'est-à-dire d'un art qui refuse la science pour se rapprocher davantage du sentiment immédiat. Et donc, inscrire ces mots tahitiens que personne ne comprend, c'est un moyen justement de colorer le tableau et de le ramener davantage dans ce domaine du primitif. Alors, cette manie des titres a donné lieu à naturellement un tout petit peu d'ironie, et je vous pardonnerai de vous montrer des œuvres trop célèbres et à mon sens complètement surévaluées parce qu'on y veut voir naturellement l'origine du monochrome. Et donc Yves Klein aurait naturellement beaucoup regardé Alphonse Allais, Malevitch aussi, je n'en mettrai pas forcément ma main au feu. Alphonse Allais a exposé en 1885 une œuvre qui a disparu, qui était une feuille de papier canson blanc, avec comme titre « Première communion de jeune fille chlorotique sous la neige ». Donc, au Salon des incohérents, c'est-à-dire un salon comique destiné à faire une espèce de caricature de certains aspects propres à la peinture de son temps. Et il renouvelle en publiant en 1895 son album Primo Avrilesque. Alors, tout le monde connaît le combat de nègres dans une cave pendant la nuit, d'autres proposent dans un tunnel, enfin peu importe. Je vous ai ajouté des souteneurs encore dans la force de l'âge et le ventre dans l'herbe boivent de l'absinthe, monochrome vert, récolte de la tomate par des cardinaux apoplectiques au bord de la mer rouge, monochrome rouge. Bon. Je me refuse absolument à prendre ces tableaux comme une étape vers l'abstraction, plutôt ces tableaux, ces images, comme une étape vers l'abstraction, comme on le trouve parfois. Si je vous les montre quand même, c'est parce qu'ils tiennent, à mon sens, une place importante dans la critique du titre. Je vous avais cité il y a deux semaines le texte texte de Baudelaire dans le Salon de 1846, où il expliquait que le livret du Salon était l'encre de salut pour bien des peintres médiocres, pour tous ceux qui se veulent des peintres de sentiments. Et c'est, le texte se trouve d'ailleurs, vous pourrez le récupérer justement sur mon site. Baudelaire ne peut qu'ironiser sur le caractère littéraire, sur le besoin propre à la peinture de se trouver des ressources en dehors de la peinture même. Je ne suis pas sûr que Baudelaire aurait été fier d'être comparé à Alphonse Allais. Nous sommes dans deux registres différents, mais je pense qu'on est dans le même type de discussion face aux allégories réelles représentant 10 ans de ma vie artistique et morale, Impression, Soleil levant, Vainette, mais je ne sais plus, ou pas, et les différents titres que je vous ai montrés, c'est-à-dire cette présence du discours et du discours qui vient, dans un certain nombre de cas, colorer le tableau. Dans d'autres cas, dans l'album Primo Avrilesque, on a une caricature, finalement, créer le tableau. Donc, vous voyez donc beaucoup de pistes couvrent le XIXe siècle. Je dirais que c'est un petit peu schématique d'essayer de présenter les pistes, les titres du XIXe siècle en moins d'une demi-heure, alors que la variété pourrait être beaucoup plus nombreuse. C'est plus une interrogation sur notre façon de les voir, de les apprécier et de les comprendre. Et d'une certaine façon, ce rôle majeur qu'acquiert le titre au XIXe siècle va poser un problème au moment où la peinture se bouleverse dans les deux premières décennies du XXe siècle. Je ne vais pas naturellement remonter au Salon des Fauves, je ne vais même pas vous montrer de tableau cubiste, mais je voudrais partir d'un texte qui n'est peut-être pas le meilleur Apollinaire, évidemment, mais dont je me servirai pas mal aujourd'hui, qui est son livre intitulé « Les peintres cubistes » publié en 1913, où il pose finalement la question de la mort du titre, comment la peinture de fauve, et puis surtout cubiste, naturellement les fauves ne sont qu'une première phase vers le cubisme, si l'on en suit Apollinaire. Cette peinture élimine le sujet et donc devrait éliminer le titre. Et cela permet de reposer justement au moment où le titre est indispensable, où la reproduction a pris une place déterminante avec les photographies, comment appeler un tableau, comment exposer un tableau. Et Apollinaire écrit donc « Beaucoup de peintres nouveaux ne peignent que des tableaux, il n'y a pas de sujet véritable, et les dénominations que l'on trouve dans les catalogues jouent alors le rôle des noms qui désignent des hommes sans les caractériser. De même qu'il existe des Le Gros qui sont fort maigres, des Leblon qui sont très bruns, j'ai vu des toiles appelées Solitude où il y avait plusieurs personnages. » Le titre, dans les premières avant-gardes, justement chez les fauves ou chez les cubistes, devient essentiellement un système de distinction d'une œuvre par rapport à une autre, une dénomination pratique pour un catalogue comme les fiches des musées actuels, sauf qu'on voudrait en avoir un petit peu plus. Dans les cas dont il s'agit, on condescend encore parfois, à se servir de mots vaguement explicatifs, comme portrait, paysage, nature morte, mais beaucoup de jeunes artistes peintres n'emploient que le vocable général de peinture. Justement, comment distinguer une nature morte à la mandoline, d'une nature morte au guéridon, d'une nature morte comment distinguer le portrait de Canveller du portrait de Gertrude Stein? Comment nommer ces œuvres quand l'enjeu n'est pas le sujet mais la représentation. Et donc, on en revient à des titres, toujours pour revenir à la logique de Port-Royal, qui sont de pure définition, c'est-à-dire définir par le genre et par la différence, et non plus du tout par des descriptions. Et donc, le problème du titre se pose, évidemment, en termes assez différents dès que l'on sort de l'anecdote, dès que l'on lutte contre le symbolisme. On peut parfois accroître un peu la différence, c'est-à-dire qu'au lieu d'être paysage, c'est paysage à l'estac, mais ça peut correspondre à tellement de tableaux que le paysage à l'estac devient un titre difficile, qui n'aide pas tellement à déterminer, à séparer. Et donc, il y a autour du refus, d'une mimésis immédiate, dans la volonté d'abstraction, et que je prends au sens qu'il avait encore au début du XXe siècle, c'est-à-dire non pas, l'abstrait ne s'oppose pas au figuratif, il est condensation, il est maintien de l'essentiel, on abstrait d'une scène ou d'une figure, ce que l'on considère comme essentiel. Donc, si j'emploie le terme peinture abstraite pour la peinture cubiste, ce n'est pas au sens non figuratif, mais au sens qui pouvait être employé justement au XXe siècle. D'ailleurs, dans ce sens-là, sauf chez Jérôme, presque toute la peinture est abstraite. C'est-à-dire toute peinture essaye d'aller à l'essentiel plutôt que de se perdre dans les accidents. Donc, la question ainsi de la dénomination va, elle aussi, basculer avec les avant-gardes. Alors, naturellement, je pourrais suivre l'histoire du titre les transformations des titres depuis 1905 jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas même envisageable. J'avais prévu, à l'origine, de vous parler pas mal du plus célèbre des titreurs, si je puis dire, qui est Magritte. Et j'ai décidé que, finalement, je ne vous parlerai pas de Magritte aujourd'hui. D'abord, la bibliographie est vraiment trop pléthorique, et globalement, le titre surréaliste pose beaucoup, beaucoup de questions, à mon sens passionnantes, mais que l'on voit déjà en germe dans l'essentiel des transformations de titre que je voudrais que l'on. Ou des transformations du rôle du titre entre les années 1910 et 1923. 1923, vous devinez que j'évoque, je pense que c'est le grand vers par lequel je terminerai. J'aurai pas le temps d'aller plus loin. Et à mon sens, si la peinture a pas mal évolué, c'est la redéfinition du titre est à peu près opérée, ou les redéfinitions du titre sont à peu près opérées dans ces 10 ans ou 15 ans absolument prodigieux qui marquent le début de la modernité. Et donc, le basculement du titre, je voudrais vous en prendre un ou deux exemples. Là aussi, le nombre pourrait être accru à l'infini. C'est-à-dire comment un certain nombre de peintres vont progressivement laisser tomber les titres. J'avais pensé prendre aussi l'exemple de Mondrian et je me suis dit que nous pouvions tous voir l'évolution des titres entre arbre et composition en ce moment à Beaubourg et que ce n'était pas la peine donc de m'y arrêter. L'exemple de Kandinsky, celui de Kupka, et je ne prendrai pas de Robert Delaunay qui serait tout aussi parlant, me paraissent assez efficaces. Kandinsky, jusque vers 1910, donne encore des titres de type générique à ses tableaux. Là, vous avez en fait un double titre. J'aurais dû mettre un point entre Rothemauer et Kuppeln, c'est-à-dire entre Mur rouge et Coupole, qui insiste sur deux aspects différents de cette représentation. Faut-il mettre au premier plan le mur rouge où faut-il insister sur les coupoles qui dominent. Or, Kandinsky va abandonner en grande partie, je ne dirais pas exclusivement, ce type de titre générique tel que ce que décrit d'ailleurs Apollinaire, pour fabriquer toute une série de tableaux qu'il appelle improvisation. Là, je vous montre l'improvisation numéro 13. Tous ces tableaux étaient exposés d'ailleurs il y a 2 ans à Beaubourg. Certains de ces tableaux étaient exposés il y a 2 ans à Beaubourg, et je ne compte pas vous en faire l'analyse. Ils ont donné lieu à des commentaires sans fin dans bien des cas, des lectures différentes. Alors, le mot improvisation pose indiscutablement un problème, c'est-à-dire qu'il faut absolument le renvoyer à la musique. On est de toute façon dans le cadre de la synesthésie, de l'alliance des arts qui caractérise l'essentiel des peintres avec la théosophie de ce début du XXe siècle. Pourquoi je dis qu'il renvoie à la musique ? Parce que l'on connaît, pour bon nombre de ces tableaux qui ont comme titre « improvisation », beaucoup d'études préparatoires. C'est le contraire même de la notion de l'improvisation. Une improvisation, justement, n'est pas étudiée. On a pour pas mal d'improvisations de Kandinsky, plusieurs versions, ou même l'improvisation avec le même numéro est l'indication deuxième version ou troisième version. C'est-à-dire que là, il s'agit de rendre compte d'un effet, de sortir complètement d'une lecture qui est anecdotique de la peinture. Certaines de ces improvisations, les premières notamment, renvoient à des éléments d'une expérience visuelle, refabriquée, retravaillée. On est dans les années du Blaureiter. Cette conception, ces éléments du réel doivent être presque gommés dans le titre du tableau. C'est-à-dire qu'il faut que les tableaux, je vous le disais tout à l'heure, se distinguent. La notion de définition passe par le genre. Ici, le genre serait la notion d'improvisation et la différence. Et la différence, ce sera la numérotation. Et on a donc beaucoup de tableaux qui portent ces indications, improvisation, numérotant. Mondrian a aussi proposé une double numérotation, par celle de l'année et celle du tableau ou de la composition. D'improvisation, d'ailleurs, Kandinsky passe aussi, ou parallèlement, parce qu'il continuera à peindre des improvisations, à donner comme autre titre générique à bon nombre de ses tableaux le terme de composition. Alors là aussi, ce n'est pas très difficile de vous traduire ça en français. Si je garde de nouveau composition ou improvisation plutôt que composition et improvisation, c'est-à-dire que je veux renvoyer dans la mesure du possible, ce que je ne pourrais pas malheureusement faire pour Malevitch, je n'ai pas de caractère cyrillique dans mon ordinateur, ou je ne sais pas m'en servir, de renvoyer au titre initial, à la façon dont l'œuvre a pu être présentée, exposée, nommée, désignée. Et donc, il serait intéressant, j'ai un petit peu essayé de regarder, mais il s'agirait d'un travail beaucoup plus systématique que celui que je peux matériellement mener, voir si les compositions et les improvisations véhiculent des conceptions différentes de la peinture. Et Kandinsky va passer au-delà à des titres encore plus simples, qui sont Bild, image. Bild mit Weizenrand, le tableau avec le bord blanc. Bild mit Rotenfleck, tableau avec la tache rouge. Et le tableau avec le bord blanc, entre parenthèses, Moscou, c'est-à-dire lui rappelant et essayant d'évoquer depuis Munich, sa ville de formation, et renvoyant donc, le terme l'évoque, à une certaine image de Moscou, mais lui-même l'explique longuement, ce tableau ne le satisfaisait pas jusqu'au moment où il s'est rendu compte que le rééquilibrer passait par la création de ce bord blanc, cette bordure qui vient rejouer avec l'ensemble des formes du tableau. Et donc, ce qui devient le plus important, ce n'est pas le mélange des images, c'est le mélange des teintes. Je ne vais pas revenir sur les conceptions coloristes de Kandinsky que vous connaissez bien, mais bien davantage ce rapport de la toile avec cette bordure de forme irrégulière qui vient restructurer, recomposer l'ensemble du tableau. C'est-à-dire que là, on est dans un discours abstrait. Ce qui compte, c'est essentiellement la peinture, et même que c'est la tache rouge qui vient essentiellement déterminer le tableau. Mais ces titres jouent aussi un autre rôle, c'est-à-dire qu'ils nous conduisent à regarder différemment. Je ne suis pas sûr que le premier coup d'œil nous conduirait immédiatement au bord blanc, au Weissenrand du tableau de la collection Guggenheim. C'est justement par le biais de ce titre que le peintre insiste sur ce qui fait la différence du tableau, toujours pour rester dans cette notion, alors que j'aurais tendance à penser qu'on est toujours dans cette distinction propre à la logique de Port-Royal, que la tache rouge serait peut-être plus du ressort de la description, que c'est-à-dire du langage poétique descriptif, que du langage philosophique distinctif. Mais là, on reste toujours dans une façon d'apprécier l'œuvre. Et donc, le titre, dans ce cadre de la naissance de l'abstraction, joue donc une place centrale dans la conception, dans la réflexion que l'on peut mener autour de l'œuvre et vient la compléter autant que les titres tahitiens de Gauguin ou les titres de Böcklin ou de Redon. On voit... Je veux dire, je pourrais prendre des exemples à n'en plus finir, le même type d'évolution potentielle chez un peintre comme Kupka, avec un passage du symbolisme au formalisme, je ne sais pas si le terme convient parfaitement, c'est-à-dire qu'il peint encore à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, des tableaux qui sont essentiellement destinés à susciter une forme de rêverie, de méditation chez le spectateur, donc un tableau comme le rêve, mais conduit à mettre en relation les deux figures du bas et la longue figure élancée. Le basculement se perd avec les compositions par plan, les femmes cueillant des fleurs, c'est-à-dire un sujet neutre, et pour aboutir, lui aussi, un vocabulaire musical, la fugue. Avec la série des fugues à deux couleurs de 1912, je ne vais pas. Les disques de Newton, renvoyant au-delà de à Newton, mais avant tout à Chevreul et à ses théories de la couleur, à ses rapports de teinte, là aussi tableau pour lequel on a beaucoup, beaucoup d'études préliminaires, de recherches sur ce mode de relation des couleurs les unes par rapport aux autres. Mais, et là aussi, le titre laisse relativement perplexe. Fugue à deux couleurs, je crois que nous en voyons tous un peu plus que deux. Et conduit en même temps à s'interroger sur ce qui est l'objet de tout les discussions des linguistes dans, et Saussure écrit dans les mêmes années, c'est-à-dire la distinction des couleurs est une distinction essentiellement nominale. Et donc, comment s'interroger sur ce mode de relation, de rapport et de couleurs, toujours dans la théorie de Chevreul, ça veut dire aussi l'émergence des couleurs des complémentaires qui viennent enrichir ou compléter cette bichromie bleu et rouge probablement. L'autre tableau a un titre, lui aussi appartient à toute une série, on en a de nombreux amorpha, c'est-à-dire l'absence de forme. Morphos, c'est la forme. La musique passe par et la couleur est l'équivalent de la musique. Et c'est donc, je vous ai dit, un des enjeux majeurs de ce début du XXe siècle, essayer de trouver un système d'équivalence, c'est-à-dire sortir complètement de la narration et donner une place centrale à la réflexion sur la couleur. À tel titre d'ailleurs que ce tableau que Kupka avait peint en 1910, il lui invente un titre une quinzaine d'années plus tard, une vingtaine d'années plus tard. Et c'est à ce moment-là qu'il propose ce titre, qui est désormais celui du tableau, qui lui paraît une évidence a posteriori, couleur comme adjectif, sous-titre les boutiques. C'est-à-dire que là, le couleur comme adjectif s'opposerait presque justement au cercle de Newton, où la couleur n'est pas un adjectif, elle est l'essence. Elle n'est pas un attribut, elle est l'être. Ici, dans cette préhistoire de Kupka vue par lui-même, j'entends, la couleur n'est encore qu'un adjectif, mais c'est elle qui détermine le tableau et les rapports des différentes boutiques entre elles. Et donc, couleur comme adjectif permet justement de sortir du côté vu de Paris, pittoresque qui aurait pu être un titre plus vendable au XIXe siècle et peut-être même encore au XXe siècle. Donc ainsi, c'est cette réflexion sur le titre, je vous en conduis aussi à la revendication avec Malevitch de titre lui aussi basculant de titres pittoresques ou anecdotiques à des titres purement abstraits, composition suprématiste, Supremus, là aussi, avec une numérotation. Et je vous dis, l'exemple de Mondrian est un exemple qui est tout aussi efficace, c'est-à-dire que l'enjeu du titre vise justement à resituer le tableau dans un tout autre cadre, et peut-être aussi face à un certain nombre d'attaques contre la peinture non figurative, à la défendre, c'est-à-dire prouver qu'elle n'est pas de la pure décoration, avec les menaces permanentes de la comparaison avec le papier peint qui est mené à l'égard de la peinture non figurative. Mais cette voie n'est pas la seule qui se développe, et une autre qui va jouer un rôle non sans importance, c'est justement le titre qui vient compléter, permettre de repenser le tableau. Ce que l'on retrouvera naturellement totalement dans la période surréaliste, chez les peintres surréalistes, et même chez bon nombre des expressionnistes abstraits américains, chez Anne Newman, qui vient colorer aussi ces bandes avec des titres. Giorgio de Chirico, je vous montre ici un texte relativement tardif d'après-guerre, au moment où il veut lancer l'école d'art métaphysique, lancer un manifeste métaphysique qui viendrait se substituer au futurisme qu'il considère comme dépassé, et en même temps reprenant le style de Marinetti, c'est-à-dire l'idée qu'avant lui, il n'y avait rien. Et donc, il y a une critique évidente de l'impressionnisme, mais critique du cubisme qui, pour lui, n'est pas sortie de l'impressionnisme. cubisme français est à présent dépassé, tant dans la forme que dans l'esprit, par le nouvel art italien, le mien évidemment, celui de Carra. La déformation des objets, base première du cubisme, crée un état psychosensoriel qui, dans la balance des valeurs éternelles, ne pèse guère plus, métaphysiquement parlant, que les équilibrations fantaisistes d'un pré-raphaélite anglais ou d'un quelconque stylisateur slave allemand. Alors, je ne sais pas si le stylisateur slave allemand n'est pas Kandinsky, justement, qui pourrait être visé. Bon, c'est... Intrinsèquement, l'intention intime du peintre cubiste ne diffère guère de celle de n'importe quel peintre traditionnel passé, présent ou futur. Il suffit pour cela d'observer les titres d'un catalogue d'exposition cubiste parfaitement identique à ceux d'un catalogue d'exposition traditionnelle. Paysages, figures, nature morte, tête de femme, et puis encore nature morte, paysage, détail apparemment mineur et pourtant non négligeable. Les titres et ces titres génériques sont bien la preuve que les cubistes, au jeu de Quirico, j'entends bien, que les cubistes n'ont rien apporté, et non, que finalement ils ne sont que dans la continuité de Courbet, dans la continuité des impressionnistes, c'est-à-dire des gens qui s'intéressent à la sensation et non pas suffisamment à la révélation. Et pour Quirico, la peinture est révélation. Et je vous montre deux de ces toiles peintes justement dans les années de son séjour à Paris, avec donc titres en français, parce qu'elles ont été exposées avec des titres en français. Deux des titres, bien de ces tableaux, ont le même type de titre, c'est-à-dire l'énigme. L'énigme d'une après-midi d'automne 1909, alors il nous raconte les conditions même de l'exécution du tableau, le rapport avec un sentiment subit d'étrangeté qu'il aurait eu, Piazza Santa Croce à Florence, comment il a remplacé la statue de Dante, etc., etc. C'est-à-dire que pour lui, la peinture n'a aucun besoin, à la manière des lucubrations des germano-slaves, de s'écarter du réel. Elle doit rendre au réel donner un sens nouveau au mot de la tribu, pour reprendre une fois le vers de Mallarmé. C'est-à-dire redonner sa capacité d'étrangeté. Je ne sais pas en quelle mesure, là où de nouveau, les titres de Quirico viennent compléter, recolorer le tableau. Ils ne sont pas des titres explicatifs, au contraire. On aurait du mal à vraiment rendre compte du tableau par le titre, mais ils fonctionnent dans un rapport de complément, d'opposition, de mise à distance. C'est ce que fera Magritte avec La trahison des images ou d'autres exemples aussi célèbres. C'est-à-dire que là, on se trouve vraiment face à une réintégration du mot, réintégration du sens, mais d'un sens qui ne doit pas être l'espèce de description banale du combat de nègres dans un tunnel, mais un moyen de penser différemment, de penser par l'inadéquation du titre et de l'œuvre qui doit pousser le peintre à réfléchir. Et alors, j'ai besoin de vous rappeler que Quirico a été assez lié avec Apollinaire, qu'il a même peint le portrait dit aujourd'hui prémonitoire d'Apollinaire, et que Apollinaire l'a défendu. Mais je voudrais revenir à deux autres textes deux autres artistes par lesquels je vais terminer, qu'Apollinaire évoque dans Les peintres cubistes. Picabia et surtout Duchamp. Justement, Apollinaire essaye de réfléchir, de raisonner sur ces gens qui intègrent le titre, non pas à l'extérieur du tableau, non pas sur un cartel, non pas sur un cadre, mais dans le tableau lui-même, à la façon justement des toiles tahitiennes de Gauguin, où l'inscription, pour revenir toujours à ce qu'on avait vu dans la première séance, figure sur la surface même de la toile. L'indication du titre n'est point chez Picabia un élément intellectuel étranger à l'art auquel il s'est consacré. Cette indication doit jouer le rôle d'un cadre intérieur, comme le font dans les tableaux de Picasso, les objets authentiques, c'est-à-dire les collages, les inscriptions exactement copiées. Elle doit écarter l'intellectualisme de décadence et conjurer le danger qu'il y a toujours pour les peintres de devenir des littérateurs. Le titre écrit de Picabia, les objets authentiques, etc., joue le même type de rôle. On en trouverait l'équivalent chez tous les grands peintres. Le titre est destiné à donner de l'intensité pittoresque à une œuvre de peinture, et ce rôle dit suffisamment qu'il est légitime. On ne va pas demander à Apollinaire de mettre en cause la légitimité du mot. Ce serait quand même discutable, ça ne pourrait pas être de sa qualité. Mais Picabia n'est pas un peintre littéraire. Picabia, avant même la période d'Ada, intègre ces inscriptions qui viennent pousser à lire et voir différemment le tableau. Voilà la fille née sans mère. L'inscription se trouve en haut de la toile, la parade amoureuse. C'est-à-dire que ce qui, dans bien des cas, paraîtrait peut-être dans un esprit d'Ada plutôt ironique, semble, aux yeux d'Apollinaire, un outil même pour accroître la dimension et la portée du tableau. Et naturellement, celui qui a le plus réfléchi sur le titre, probablement, si j'en suis les analyses de Thierry de Duve, parce qu'il n'est pas un très grand peintre, c'est naturellement Marcel Duchamp. Marcel Duchamp, dont Apollinaire, toujours dans les peintres cubistes, insiste sur, là aussi, la présence des mots. Pour écarter de son art toutes les perceptions qui pourraient devenir notions, Duchamp écrit sur son tableau le titre qu'il lui confère. Ainsi, la littérature dont si peu de peintres se sont passés disparaît de son art, mais non la poésie. Il se sert ensuite de formes et de couleurs, non pour rendre les apparences, mais afin de pénétrer la nature même de ces formes et de ces couleurs formelles qui désespèrent les peintres au point qu'ils voudraient s'en passer et dont ils tenteront de se passer chaque fois qu'il sera possible. L'analyse d'Apollinaire est, je trouve, plutôt meilleure que ce qu'il fait d'habitude quand il parle que ces définitions des différents types de cubisme ne convainquent pas à 100%, mais là, je reste dans le jugement de valeur discutable. Les cubistes eux-mêmes n'ont pas toujours été absolument convaincus par ce qu'Apollinaire écrivait d'eux, sauf naturellement des gens comme Gaze et Metzinger. Mais là, il y a une réflexion sur son ami Marcel Duchamp qui oppose la composition concrète de ses tableaux, un titre intellectuel et extrême. Il va aussi loin que possible et ne craint pas d'encourir le reproche de faire une peinture ésotérique, sinon absconce. Et il précise enfin que Duchamp est le dernier à s'intéresser, et le seul peintre de notre époque qui s'intéresse au nu. Alors, je vous montre deux exemples et justement la tension qui a pu être posée avec le passage de la Vierge à la Mariée. J'ai essayé de reproduire la typographie des inscriptions et les majuscules et les minuscules, et surtout le nu descendant un escalier, tableau dont le titre a posé un tel problème qu'il a été, non pas refusé, le terme serait trop fort, mais discuté et on a poussé le peintre à le reprendre au Salon des Indépendants. Les cubistes avaient un peu peur que le tableau paraisse se moquer du cubisme, ce qui n'est d'ailleurs pas impossible complètement quand on connaît Marcel Duchamp. Et donc, les frères de Duchamp, Duchamp-Villon et Jacques Villon, qui faisait partie du comité de sélection, on dit « on aimerait bien que tu retires le titre inscrit dans le tableau ». À ce moment-là, il n'y a pas de problème. Et Duchamp a préféré retirer le tableau pour après ça l'exposer à l'Armory Show, vous connaissez l'histoire, et en faire une œuvre symbolique de la modernité aux États-Unis. Donc là, le titre, comme vous le voyez, le refus du titre pose un et plutôt l'émergence du titre gêne les cubistes. On peur de cette déformation même du rôle propre de la peinture. Et cette question du titre, je n'ai guère le temps de m'y arrêter vu que je vois que le temps est à peu près écoulé, va complètement transformer un certain nombre d'objets, c'est-à-dire les ready-made exécutés dans ready-made aidés pour le tableau dont je n'ose pas vous lire le titre à voix haute, je pense que vous y parviendrez par vous-même sans trop de difficultés, il est suffisamment célèbre pour autant, c'est-à-dire comment transformer la Joconde par par des gribouillis d'enfants, je veux dire, ce qui semble une plaisanterie de potache, et qui en même temps fait de cette œuvre un ready-made, comme naturellement la Pelle à neige, l'urinoir rebaptisé Fontaine, le porte-bouteille rebaptisé Hérisson, c'est-à-dire comment, par le biais du titre, de la titraison, des objets industriels intègrent et rediscutent tout le monde de l'art. Tout ça est bien connu et je ne vais pas m'y arrêter. Je terminerai par l'œuvre majeure explicitée dans la boîte verte, dans la boîte blanche, c'est-à-dire les différentes publications de Marcel Duchamp ultérieurement, qu'il appelle lui-même dans la plupart du temps dans ses écrits le grand vert, mais qui est exposé, présenté avec le titre La mariée mise à nu par ses célibataires, virgule même. Je vous ai mis les traces d'un entretien où il explique finalement qu'à l'époque où il a choisi ce titre, il était devenu trop littéraire, les mots m'intéressaient, le rapprochement des mots auxquels j'ajoutais la virgule et même, un adverbe qui n'a aucun sens, puisque ce n'est pas eux-mêmes et ne se rapporte ni au célibataire ni à la mariée, c'est donc un adverbe dont la plus belle démonstration de l'adverbe, ça n'a aucun sens. Ce que Thierry Dauduve appelle le nominalisme pictural propre à Marcel Duchamp, qu'il revendique lui-même dans un certain nombre de ses écrits, c'est-à-dire que c'est que le mot vient à ce moment-là donner un sens, conduire, avec aussi beaucoup d'explications, à reconnaître la zone de la mariée, la zone des célibataires, la broyeuse de chocolat, etc. etc. Là aussi, l'analyse du tableau, je ne sais pas qui parviendrait sans la boîte verte, en tout cas pas moi, du tableau, oui, de l'œuvre. C'est-à-dire qu'avec des gens comme Duchamp, Picabia ou Quirico, il y a une repensée du titre, une modification entre les titres de Kandinsky, de Kupka, de Malevitch, de Mondrian, qui aboutissent au plus célèbre ou le plus fréquent des titres du XXe siècle, c'est-à-dire sans titre, et les titres de Duchamp, de Picabia, de Quirico, aboutissant naturellement aussi à Max Ernst, à Salvatore Dalí, à Magritte, on voit à quel point la transformation de la peinture a nécessairement conduit à repenser complètement la transformation du titre. Je vous remercie.